Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce 1er janvier 2024, je vous présente à vous tous, nos chers amis auditeurs, tous nos vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien a souhaité la fin du massacre de la population à Gaza et une paix durable dans le monde en 2024. La résistance irakienne vise des cibles israéliennes et américaines dans la région. Et en RDC, le président Tshisekedi a été réélu, selon les résultats provisoires. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a reçu dimanche 31 décembre la famille du martyr Qassem Soleimani. Lors de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a souligné que le général Soleimani a joué un rôle important dans la revivification du front de la résistance dans la région. Le martyr Soleimani a déployé de nombreux efforts pour relancer et restaurer le front de la résistance et il a mené ce travail avec sincérité, sagesse et éthique, rendant hommage aux efforts du général Rahani, commandant de la force rose du corps des gardiens de la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique a déclaré qu'il fallait suivre cette lignée du renforcement du front de la résistance. Dans ses messages de félicitations à l'occasion de la nouvelle année chrétienne, le président iranien Ebrahim Raisi a souhaité la fin du massacre de la population à Gaza et une paix durable dans le monde en 2024. Le président iranien a espéré que la communauté internationale prendra des mesures urgentes au cours de la nouvelle année pour mettre fin au massacre du peuple palestinien à Gaza par Israël. Dans des messages envoyés séparément aux dirigeants des États chrétiens, dimanche soir 31 décembre, il a présenté ses vœux pour la nouvelle année. Il a prié Dieu Tout-Puissant pour la paix et la santé pour les nations du monde entier. Le président iranien a espéré qu'en 2024, à la lumière des efforts conjoints des dirigeants du monde, la communauté internationale prendra des mesures immédiates pour mettre fin au massacre dans la bande de Gaza, éradiquer l'oppression et l'hégémonie, établir une paix et une sécurité durable autour de l'enclave palestinienne. Lundi matin, alors que le monde célébrait la nouvelle année chrétienne avec des feux d'artifice et des festivités, des avions militaires israéliens ont bombardé le centre de Gaza. Au moins 24 personnes ont trouvé la mort en martyr dans la nuit. Selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, des attaques ont été signalées sur toute la longueur du territoire. Des combats de rue se sont également intensifiés entre les troupes d'occupation et les combattants de la résistance palestinienne dans les villes du centre et du sud du territoire assiégé. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que les attaques israéliennes avaient fait au total 28 822 morts ou disparus, de 9 100 enfants
Israël a commis 1825 massacres à Gaza depuis le 7 octobre. Le régime a encore intensifié ses raids violents en Cisjordanie depuis le début de la guerre, tuant au moins 315 Palestiniens. Les Palestiniens ont organisé des rassemblements de masse en Cisjordanie pour rendre hommage aux Palestiniens qui ont trouvé la mort dans la guerre génocidaire israélienne contre Gaza et pour exprimer leur soutien aux groupes de résistance et à la bande de Gaza. Les marches ont eu lieu dans les villes de Ramallah et de Jenin la veille du Nouvel An, alors que la guerre dévastatrice d'Israël contre Gaza entrait dans son 87e jour. Agitant des drapeaux palestiniens, ils portaient également une longue banderole sur laquelle étaient libellés les noms de milliers de Palestiniens tués dans les agressions israéliennes. À Ramallah, les manifestants scandaient des slogans en solidarité avec des brigades al-Rassam et brigades al-Rots, respectivement les branches militaires du Hamas et du djihad islamique de la Palestine siégée à Gaza. Des manifestants pro-palestiniens dans le monde entier se sont rassemblés le soir du Nouvel An en solidarité avec le peuple palestinien, appelant à la fin de la guerre israélienne contre la bande de Gaza. À Boston, aux États-Unis, des milliers de personnes se sont rassemblées le soir du Nouvel An pour une marche pro-palestinienne devant l'hôtel de ville de Boston. Les manifestants américains brandissaient des drapeaux palestiniens et scandaient « Stop au génocide » et « Pas de célébration sous occupation ». Tandis que des feux d'artifice explosaient au sud de leur tête. À Berlin, la capitale allemande, des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés pour condamner l'attaque israélienne sur Gaza, qui approche de son troisième mois. Des drapeaux palestiniens pouvaient également être vus lors de la manifestation sous le slogan « Pas de réveillon du Nouvel An, solidarité avec la Palestine ». Des manifestants pro-palestiniens se sont également rassemblés à Malmö, en Suède, pour exiger la fin du génocide. À Helsinki, en Finlande, des manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens lors de rassemblements à la veille du Nouvel An. En Turquie, des manifestants ont organisé un rassemblement sur le pont de Galata à Istanbul pour soutenir les Palestiniens de Gaza. La résistance islamique irakienne a déclaré dimanche avoir lancé une attaque contre des cibles militaires israéliennes à Eilat et dans le Golan occupé syrien, en utilisant des armes appropriées, en réponse à la guerre en cours menée par l'entité israélienne contre la bande de Gaza. Dans son communiqué, le groupe a réaffirmé que cette opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie actuelle visant à résister à la présence des forces d'occupation américaines en Irak et dans la région, au sens large, s'engageant à poursuivre ses frappes contre les bastions ennemis. La chaîne satellite Al-Rahira News a diffusé une photo prise samedi montrant le port israélien d'Eilat vidé de navires pour la première fois de son histoire. En outre, le groupe de résistance irakien a annoncé avoir frappé dimanche soir une cible militaire israélienne sur le plateau du Golan, ainsi que la base d'occupation américaine Al-Shadadi au sud de la province syrienne de Rasak. Quelques heures avant l'annonce, des sirènes ont retenti dans les colonies israéliennes de Keshet et Katzrin, situées à près de 300 km du point le plus proche du territoire irakien. Les forces armées yéménites ont souligné que Washington porte l'entière responsabilité des conséquences d'une attaque meurtrière de la marine américaine contre des bateaux yéménites en mer Rouge. Des hélicoptères de la marine américaine ont attaqué dimanche quatre bateaux appartenant aux forces navales yéménites. Trois d'entre eux ont coulé et au moins 10 militaires yéménites ont été tués. Le communiqué lu par le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, indique que l'attaque a eu lieu alors que les bateaux du Yémen accomplissaient leur tâche officielle habituelle consistant à renforcer la sécurité et la stabilité et à protéger la navigation maritime en mer Rouge. Il a ajouté que l'attaque a également eu lieu alors que les forces yéménites remplissaient leurs devoirs humanitaires et éthiques en interdisant aux navires israéliens ou à ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée de traverser la mer Rouge en solidarité et en soutien aux Palestiniens. Les forces armées yéménites ont une fois de plus conseillé à tous les pays de ne pas se laisser entraîner dans les plans américains visant à déclencher un conflit en mer Rouge, affirmant qu'elles n'hésiteront pas à faire face à toute agression contre le Yémen et son peuple. Le président sortant de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été réélu pour un second mandat de 5 ans après avoir recueilli 73,34% des voix lors de la présidentielle du 20 décembre, selon le résultat provisoire annoncé dimanche par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Tshisekedi est arrivé en tête avec 73,34% des voix parmi les butins déjà dépouillés, alors que Moïse Katumbi, son principal challenger, est arrivé en deuxième position avec 18% des voix, d'après les résultats préliminaires. Ces résultats représentent environ 18 millions de votes sur un total de près de 44 millions d'électeurs inscrits, soit un taux de participation faible, noté par la CENI. Un jour après que la Russie a accusé l'Ukraine d'une attaque meurtrière sur une ville frontalière, les autorités ukrainiennes ont annoncé que des cibles à travers le pays ont été frappées par des dizaines de drones russes durant ces dernières 24 heures. Elles ont déclaré dimanche que la Russie a tiré au moins 9 missiles et utilisé 49 drones contre l'Ukraine. La défense aérienne ukrainienne prétend avoir abattu 21 drones. Les raids, selon l'Ukraine, ont visé des immeubles et des bâtiments administratifs à Kiev et dans d'autres villes. 4 drones russes ont également pris pour cible le centre de la ville de Kharkiv. Le Venezuela a déclaré qu'il continuerait à déployer près de 6 000 soldats jusqu'à ce qu'un navire militaire britannique envoyé en Guyane voisine quitte les eaux au large des deux nations sud-américaines. Dans une vidéo publiée sur X, le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino, apparaît entouré d'officiers militaires devant une carte annotée du Venezuela et de la Guyane, une ancienne colonie britannique. Padrino a déclaré que les forces gardent notre souveraineté nationale. Les forces armées ont été déployées non seulement dans l'est du pays, mais sur l'ensemble du territoire, a-t-il noté. Elles seront là jusqu'à ce que ce bateau impérialiste britannique quitte les eaux contestées entre le Venezuela et la Guyane. Le ministère de la Défense a confirmé que la vidéo avait été tournée dans une base militaire à Caracas. La vidéo intervient après des semaines de tensions entre les deux pays au sujet d'une région du Guyana connue sous le nom d'Essequibo, une étendue de terre peu peuplée de la taille de la Floride, mais riche en pétrole et en minéraux. Le conflit, vieux d'un siècle, a récemment été ravivé avec la découverte de pétrole en Guyane. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le martyr Soleimani a revivifié le front de résistance dans la région. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que l'un des services les plus remarquables rendus par le légendaire personnage antiterroriste iranien, le lieutenant général Rassem Soleimani, était d'avoir revivifié le front de résistance dans la région. L'ayatollah Khamenei a fait cette remarque dimanche 31 décembre, lors d'une réunion avec les membres de la famille du général Soleimani. Le commandant de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a été assassiné lors d'une lâche frappe de drone autorisée par le président américain de l'époque, Donald Trump, près de l'aéroport international de Bagdad, le 3 janvier 2020. Soleimani a été assassiné avec Abu Mahdi al-Muhandis, le commandant adjoint des unités de mobilisation populaire irakienne et leurs compagnons. L'ayatollah Khamenei a également déclaré que le défunt commandant iranien avait fait de grands efforts pour revivifier le front de résistance et l'avait fait avec sincérité, prudence et sagesse. Le guide suprême de la révolution islamique a souligné que les traits de personnalité du général Soleimani sont largement connus en raison de son intégrité. soulignant le dernier chapitre de sauvagerie d'Israël dans la bande de Gaza assiégée qui se poursuit depuis le 7 octobre. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que Gaza avait été capable de résister à près de 3 mois d'assaut grâce au front de résistance. Le leader a également apprécié les efforts de l'actuel commandant de la force Rots du CGRI, le général de brigade Ismail Rahani, qui a succédé au défunt héros national. Le leader a déclaré qu'il fallait suivre cette ligne du renforcement du front de résistance.
Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en 30 décembre aujourd'hui 2023. Ravi de vous retrouver. Alors on va s'intéresser tout de suite avec nos deux experts qui nous rejoignent depuis Paris et Beyrouth aux dernières évolutions palestiniennes. L'année 2023 était chargée de divers événements tristes, mais ce qui se passe dans la bande de Gaza et qui est toujours en cours, est inédit dans l'histoire moderne, sur plan du massacre et de l'ampleur du drame. On va s'intéresser sur ce sujet avec nos deux experts tout de suite. Un tout petit reportage, on se retrouve tout de suite après.
La branche militaire du mouvement de résistance palestinien, le Hamas, affirme que l'opération Al-Aqsa a mis le régime d'occupation israélien sur la voie de l'extinction. Les brigades Qassam affirment que les résistants ont porté un coup dur au régime sioniste. Dans un message audio, le porte-parole Abu Obeida a déclaré que les combattants palestiniens ont réalisé une épopée unique en infligeant de lourdes pertes à Israël en plus de 80 jours de combat. Il a déclaré que plus de 825 véhicules militaires israéliens ont été détruits au cours de cette période. Abu Obeida a déclaré que la priorité absolue du Hamas était de mettre fin au génocide perpétré par le régime à Gaza. Il a également souligné qu'il n'y aura pas d'accord sur l'échange de captifs avec Israël tant que son agression ne prendra pas fin. La branche militaire du mouvement de résistance palestinien, le Hamas, affirme que l'opération Al-Aqsa a mis le régime d'occupation israélien sur la voie de l'extinction.
Voilà, retour au plateau. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'accueillir par Skype à distance Maître Eli Hatem, analyste politique, juriste international, qui a accepté gentiment notre invitation. Bonjour Eli Hatem, heureuse de vous retrouver.
Votre invitation.
Un grand bonjour également à Rada Hopalla, universitaire, professeur à l'Université islamique de Beyrouth. Bonjour madame, heureuse de vous retrouver, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous m'entendez, madame Hopalla?
Oui, je vous entends parfaitement.
Merci d'être là, madame Hopalla. On commence tout de suite avec vous, Rada Hopalla. Nous avons porté le coup du siècle au sionisme le 7 octobre. Alors, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du mouvement de la résistance palestinienne, le Hamas. L'opération Tempête d'Al-Aqsa ou bien Déluge d'Al-Aqsa, menée par les mouvements de la résistance palestinienne basée dans la bande de Gaza, assiégée sous un blocus total, avait mis le régime d'occupation sioniste, je cite, en voie d'extinction, selon les mots du porte-parole. Alors, s'agissant des dernières évolutions, qu'est-ce que vous entendez par ces propos du porte-parole du mouvement de la résistance islamique? Qu'est-ce que signifie ce coup du siècle aux sionistes?
Ben oui, en fait, il a bien été, on le sent, au dit, en anglais, c'est-à-dire, qui a été déclenché par l'attaquant de la Trump, à travers laquelle il a lancé une campagne de normalisation avec plusieurs États arabes, notamment du Golfe Persique, mais aussi quand il a transféré, ou il a estimé que Al-Quds était la capitale de l'entité sioniste. Donc, quand justement le porte-parole des brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, affirme que le déluge Al-Aqsa est un coup du siècle, en fait, c'est comme s'il était en train de dire que nous avons porté un coup définitif sur ce qu'on appelle l'affaire du siècle, premièrement. Deuxièmement, alors au niveau des répercussions géopolitiques concernant justement le déluge Al-Aqsa, c'est surtout des répercussions géopolitiques au niveau de la nation juive, puisque le projet essentiel de l'entité sioniste était le grand Grand Haaretz en hébreu, c'est-à-dire Grand Israël, et qui, à travers la première étape, c'est-à-dire créer un État juif, ensuite il fallait que cet État s'élargisse aux dépens, excusez-moi, des États frontaliers, c'est-à-dire du Liban, de la Jordanie, de l'Égypte, pour créer le grand Israël. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes passés avec le déluge Al-Aqsa de guerre avec les États limitrophes et avec l'entité sioniste, à l'intérieur même de l'entité sioniste, avec les diverses intifadas, de guerre de volonté entre deux États qui sont en train de se disputer un territoire, à une guerre d'identité dont j'en ai parlé auparavant, c'est-à-dire quand on frappe ce qu'on appelle Tzahal, qui signifie en hébreu l'honneur de la nation juive. D'abord, il n'y a plus de nation juive depuis 2001, puisqu'en 2001, selon le centre de documentation française, dans un bouquet d'articles, à l'époque, Israël était en train de souffrir au niveau de son identité nationale. Parce que justement, avec le retrait des forces d'occupation israéliennes en l'an 2008, il n'y avait plus question de rester d'un projet israélien. Or, ce qui s'est passé avec des militants, c'est que Israël a été frappé, donc c'est le symbole de la nation. Il n'est plus question d'avoir non seulement un grand État israélien au niveau du Liban, de l'Égypte, etc., mais en plus, à l'intérieur même, on a transféré le conflit qui était toujours à l'extérieur des frontières de l'entité sioniste, il est devenu à l'intérieur, c'est-à-dire en train de se battre sur le territoire que l'entité sioniste estime qu'il est son territoire. Donc, oui, concernant les répercussions, il n'y a plus de nation juive, il n'y a plus d'identité nationale juive, et il n'y a plus le symbole même de cette nation n'existe plus. Donc, tout ce projet l'extrémisme sioniste tente de sauver est en fait tombé à l'eau. Et donc, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau de l'opinion publique internationale, dont les lobbies sionistes sont censés pouvoir contrôler les outils, c'est-à-dire les médias, on a constaté que tout le discours qui était propagé par l'establishment militaire et politique israélien a également été dénoncé par des initiatives privées et parfois collectives de la part de jeunes, ce qu'on appelle les jeunes des réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux se sont transformés en cinquième pouvoir, je dirais que le quatrième pouvoir étant les médias. Le cinquième pouvoir, c'est vraiment, il y a eu un renversement de la situation au profit de la cause palestinienne. Et vous constaterez par les slogans qui sont en train d'être répétés dans toutes les manifestations, surtout aux États-Unis ou en Europe, on ne parle pas, par exemple, sauver Gaza. On ne dit pas sauver Gaza. On ne parle pas de, par exemple, il faut respecter les droits de l'homme. On est en train de dire un slogan encore plus dangereux, qui est « Free Palestine », « Libérer la Palestine ». Donc, ce n'est plus une question de deux États. L'opinion, le monde entier est en train de parler, c'est-à-dire les peuples sont en train de parler de « Libérer la Palestine ».
Donc, ils sont en train de dénoncer complètement, ou plutôt, ils ont détruit 75 ans de propagande, de mensonges, de guerre, tout ce que vous voulez, que l'entité sioniste et les États-Unis ont essayé de faire, à savoir d'éradiquer la cause palestinienne, d'étouffer la cause palestinienne, et à travers justement, à la fin, c'est-à-dire à la fin de cette année, il s'agissait de faire justement, de normaliser, de lancer des campagnes de normalisation. Même les campagnes de normalisation ne sont plus viables. Voilà.
Merci beaucoup, Rada, pour tous ces éclairages. Alors, à vous, Elie Hatem, Maître Hatem, je vous le disais, l'année 2023, qui touche bientôt à sa fin, était marquée, jalonnée par divers événements tragiques. Mais ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est inédit dans l'histoire moderne et relève de l'inacceptable. Alors, notre priorité est de mettre fin à la violence contre la population de Gaza et de mettre fin au génocide dont est victime la population innocente de la bande de Gaza, les femmes et les enfants. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Hamas, l'annonçant comme sa priorité. Je vous laisse réagir à ces déclarations du porte-parole du Hamas également au propos de Madame Hopalla. Elie Hatem, je ne vous entends pas.
Maintenant, voilà. C'est mieux ?
Voilà, oui, parfaitement mieux. Ah, je vous laisse réagir. Merci.
Absolument. Voilà, merci. Je vais répondre à votre question, mais... si vous voulez, je vais faire trois remarques et je pense qu'à partir de ces trois remarques, ou en exposant ces trois remarques, il y a amplement une réponse à votre question. La première, c'est en ce qui concerne le nom de l'opération qui a eu lieu le 7 octobre. Alors, le nom, comme vous avez dit, c'est très difficile de le traduire en français. Vous avez hésité entre tempête d'Al-Aqsa ou bien déluge Al-Aqsa. Et en fait, le terme en arabe, c'est « tawafan al-Aqsa ». Et « tawafan » veut dire, il y a deux significations. Il y a une signification qui est, je dirais, climatique. Autrement dit, ça peut être un déluge ou une tempête, mais il y a une autre signification en arabe qui veut dire un ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est la petite goutte d'eau qui a débordé du vase. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des provocations répétitives de la part des forces militaires de l'entité sioniste à l'encontre de la population palestinienne. Il y a eu des exactions qui ont été entreprises depuis je dirais même 1947 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu, comme vous le savez, déclaration 1948 de l'État d'Israël, la guerre de 1967, et puis il y a les différentes attaques, et puis surtout après... C'est que la résistance palestinienne, qui était composée par plusieurs groupes, le FPLP, le Fatah et puis d'autres organisations, ont renoncé à partir d'Oslo à la résistance armée. Et puis, ils ont accepté de donner une partie du territoire palestinien à cette entité artificielle. Et quand je parle entité artificielle, c'est là ma deuxième remarque, et c'est là où je ne suis pas d'accord, si je me permets, avec Rada, ou quand elle dit que la nation juive, il n'y a jamais eu de nation juive. Il y a eu une construction artificielle d'une société, je dirais.
Excusez-moi, je vous interromps, je n'ai pas dit qu'il y avait une nation juive, c'était que dans la représentation politique israélienne, ils cherchent à construire une nation juive. Si vous voulez. Quels sont les arguments, excusez-moi, théologiques et géopolitiques qui ont été exprimés par différents responsables israéliens et par des philosophes et par des sociologues israéliens? Vous remarquerez qu'il y a des arguments dans lesquels ils disent que dans la carte justement du Grand Eretz, c'est pour eux une nation juive. Je n'ai pas dit qu'ils ont construit, j'ai dit qu'ils cherchaient, c'était la seconde étape.
À la construction,
à travers l'invasion israélienne en 1982, Ce qui n'a pas été réussi. Et Sharon, quand il est arrivé sur les portails de Beyrouth, il l'a bien dit. Là, nous sommes proches de réaliser la nation juive. Je n'ai pas dit ce que vous êtes en train de dire. Excusez-moi, soyez plus précis.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que je vous entendais mal. J'ai entendu, donc c'était assuré. C'est pour ça.
Il y a un problème du son, exactement. Oui. Continuez, s'il vous plaît, maître.
Mais très important à ce que vous venez de dire. Il y a le livre de Shlomo Sand, et pas le seul d'ailleurs, il y a plusieurs ouvrages, il y a plusieurs études qui affirment que cette notion de nation juive n'existe pas. Il n'y a pas un peuple juif. Il y a des communautés religieuses de différentes d'ailleurs tendances, et là je ne veux pas entrer dans les explications donc théologiques et communautaires. Mais on ne peut pas, si vous voulez, avoir un seul peuple avec une seule culture, avec une seule civilisation. C'est que toute cette construction est totalement artificielle depuis les amours de Sion jusqu'à l'organisation du sionisme mondial. Parce qu'il faut rappeler une chose, que le judaïsme politique existe avant même l'organisation sioniste mondiale, depuis les amours de Sion, avec cette idée de créer artificiellement une nation ou un peuple. Or, le judaïsme, pour la plupart, y compris même pour Ernest Renan en France, c'est plus une religion qu'un peuple, et donc ne peut pas se faire prévaloir donc, d'une nation. C'est cette idéologie, si vous voulez, ultra-nationaliste, qui a tenté, comme vous l'avez très bien expliqué, et donc excusez-moi, je vous ai mal entendu au départ, c'est que on a imposé un État, surtout en profitant de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que sans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, aucune nation, aucun État dans le monde n'aurait accepté la création d'un État sur le territoire d'un autre État, avec le grand mensonge, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Alors, ce qui est tout à fait...
Vous avez bien ciblé votre réponse, je suis tout à fait
concernée. Pardon, j'ai mal entendu.
C'était tout à fait, c'était un argument tout à fait caduc, quoi, pour moi, voilà.
C'est un argument, comment ?
Vous pouvez vous ralentir un petit peu, cher Rada, parce que on vous entend un peu mal. Il y a un souci du son. Vous m'entendez, Madame Obala ?
J'étais en train de... Je suis tout à fait d'accord avec votre invité quand il a bien fait de rappeler justement que les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale étaient un prétexte pour lancer le slogan « Un peuple sans territoire, un territoire sans peuple ». Et là, je laisse la parole à votre invité. Excusez-moi de vous interrompre encore une fois.
Merci.
Non, vous savez, donc, il y a donc, le fameux auteur Finkelstein aux États-Unis qui a parlé d'ailleurs... du commerce de Holocaust. Vous savez, c'est un livre, c'est un Américain de confession, de religion juive, qui a fait cet ouvrage. Et en plus, ses parents ou ses grands-parents sont morts par les massacres qui ont eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale en raison de leur appartenance à la religion juive. Donc, ce n'est pas moi. En fait, ce sont des chercheurs, des universitaires. Il est universitaire à l'Université de New York qui a souligné cet élément. Donc, aujourd'hui, il y a, comme vous l'avez expliqué, c'est qu'il y a une société qui est composée de différents groupes qui sont complètement hétérogènes. Vous avez non seulement les séfarades et les ashkenas et les mesraï et les falachas, mais à l'intérieur, donc, même des séfarades, vous avez des tendances culturelles complètement différentes. Chez les ashkénazes aussi, et puis il y a ces différents groupes, ces différents partis politiques, donc il n'y a pas de cohésion nationale. Donc quand les Israéliens parlent d'une nation israélienne, il n'existe pas de nation israélienne, et il y a eu une crainte, une dislocation totale de cette société artificielle. Nous avons assisté d'ailleurs à un mouvement de la part des falachas à l'encontre de l'État, des institutions donc étatiques de cette entité artificielle, je répète encore une fois, et par la suite, il y a eu quand même tout un mouvement de protestation contre le régime de Netanyahou et des gens donc qui ont composé avec lui un gouvernement au sein de cette entité, encore une fois, artificielle, et qui a bénéficié d'une reconnaissance, et je dirais exagérée, parce que la reconnaissance, comme vous le savez, ce n'est pas un acte juridique, c'est un acte de pure, je dirais, opportunité politique, et qui d'ailleurs, aujourd'hui, peut être remise en cause en raison des actes de violence de la part de cette entité. Et d'ailleurs, les pays arabes doivent s'en inspirer de la résolution des Nations Unies qui indique qu'on ne peut pas reconnaître un État qui exerce des actes de violence. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a des crimes contre l'humanité qui sont exercés par cette entité qui ne peut pas se faire prévaloir de la qualité d'État. Donc, voilà la deuxième remarque en ce qui concerne la société de cette entité sioniste totalement artificielle qui est en train de se disloquer. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, Netanyahou a profité donc de cette situation pour mener ce projet politique qui est lequel ? Qui est la déportation de ce qui reste des Palestiniens. Et pour provoquer la déportation, il faut provoquer des événements qui font peur pour terroriser la population. Et donc, aujourd'hui, cette entité sioniste doit être considérée comme étant une entité terroriste. Parce que, encore une fois, d'un point de vue juridique, et moi je suis avocat, donc je parle en notion de droit, c'est qu'il n'y a pas de définition jusqu'aujourd'hui du terme terrorisme. Donc c'est une expression qui est attribuée à des groupes les uns comme pour les autres. Vous savez, quand il y a eu la résistance en France à l'encontre de l'occupant allemand, le général de Gaulle et la résistance française contre l'ennemi, contre l'occupant, étaient considérés par l'occupant et par ses alliés comme étant des actes de terrorisme. Et aujourd'hui, sur le terrain, il faut voir, c'est que il y a une disproportion entre les actes de résistance nationale et peut-être des actes collatéraux qui peuvent être peut-être condamnés de la part de la résistance palestinienne. Et d'autre part, vous avez des actes atroces, beaucoup plus importants et disproportionnés par rapport aux actes de la résistance palestinienne et qui sont condamnables et qui sont qualifiables d'actes de terrorisme, plus des actes de terrorisme, des actes de crimes contre l'humanité et non seulement des crimes de guerre, parce qu'il faut distinguer entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Merci.
Et dernière remarque, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre la résistance palestinienne. Tout a été essayé pour régler le conflit. C'est comme si quelqu'un vient chez vous, il vous occupe votre appartement, vous lui donnez la moitié de votre appartement et il veut vous chasser. Et puis personne ne vous aide, les voisins ne vous aident et personne ne vous aide, ni la justice, ni la police. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos bras pour le mettre de force dehors. Et c'est ce qui se passe actuellement sur le terrain en Palestine.
Merci Ali Hatem. Peut-être dernière question qu'on va poser avec Ghada Hoballa. Alors l'occupation israélienne est un régime usurpateur, un régime d'apartheid qui avance pourtant des revendications illégitimes au nom de soi-disant autodéfense face aux Palestiniens. Alors que ce n'est pas le Hamas qui a lancé, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des commentateurs et des analystes, des hommes politiques, des élites politiques qui a lancé cette guerre. C'est Israël qui a déclenché cette guerre. Il y a pas mal de raisons pour cette thèse. Alors, l'existence de plus de 6 000 détenus palestiniens, dont des centaines de femmes et des enfants, avec des procès sans jugement, sans avocat, beaucoup de femmes et enfants parmi les prisonniers, l'intensification des offenses faites par les sionistes à la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa, poursuite du blocus inhumain de la bande de Gaza depuis 2007... Répression sanglante et vive de Palestiniens en Cisjordanie occupée. Alors un projet imminent de Netanyahou pour loger des milliers, des millions de Juifs avec l'expansion de colonies dans les territoires occupés et également le projet de la normalisation avec certains pays musulmans. Alors je vous laisse réagir, nous n'avons que quelques minutes devant nous.
Sur quoi je vais réagir? Vous avez tout dit.
Oui, ça c'était vraiment important.
Oui, mais là, vous avez tout dit. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je... Je n'ai pas compris votre
dernier
question.
Mot, peut-être, dernier mot, peut-être, pour conclure notre émission.
Dernier mot, c'est que tout simplement, les sionistes, de toute façon, de manière, en termes géopolitiques, le projet de l'entité sioniste est tombé à l'eau. Certes, au niveau stratégique, militaire, aucun objectif militaire n'a été réalisé par l'establishment militaire politique israélien, c'est-à-dire éradiquer le Hamas. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Olmert a déclaré il y a deux jours exactement que le fait d'éradiquer Hamas est non seulement une question difficile, mais quasi impossible. Donc, la majorité des anciens responsables israéliens, c'est-à-dire ceux qui occupaient des postes ministériels, confirment ce que tous les observateurs disent, c'est que tous les objectifs que le cabinet de guerre a déclaré et déclare encore pouvoir réaliser sont irréalisables. Il n'y a que des destructions, il y a des violations en termes de droit international humanitaire et en termes de droit international public. Et là, maintenant, il y a, je viens de donner quelque chose de très important, c'est que même si l'entité sioniste n'a pas signé ni ratifié le statut de la CIJ, donc on ne peut pas la tirer dans ce guépier juridique, mais par contre, il y a des États qui n'hésitent pas à proposer une recommandation à la CIJ dénonçant les crimes de guerre de l'entité sioniste, c'est ce qu'a fait aujourd'hui l'Afrique du Sud. Voilà.
Merci Rada Obala, merci également à Eli Hatem d'avoir participé à ce court débat. Amis téléspectateurs, merci de votre fidélité. Au revoir.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Salomon et Azraël. De bon matin, un homme vint se présenter au palais du prophète Salomon, le visage blême et les lèvres bleuies. Salomon lui demanda : Pourquoi es-tu dans cet état ? Et l'homme lui répondit : Azraël, l'ange de la mort, m'a jeté un regard impressionnant, plein de colère. Je t'en supplie, commande au vent de m'emporter en Inde pour le salut de mon corps et de mon âme. Salomon commanda donc au vent de faire ce que l'homme lui demandait. Et le lendemain, le prophète demanda à Azraël : Pourquoi as-tu jeté un regard si inquiétant à cet homme qui est infidèle ? Tu lui as fait si peur qu'il en a quitté sa patrie. Azraël répondit : Il a mal interprété ce regard. Je ne l'ai pas regardé avec colère, mais avec étonnement. En effet, Dieu m'avait ordonné d'aller prendre sa vie en Inde. Et je me suis dit : Comment pourrait-il, à moins d'avoir des ailes, se rendre en Inde ? Qui fuis-tu ? Toi-même ? C'est la chose impossible. Il veut mieux placer sa confiance en la vérité. La cage. Un commerçant possédait un perroquet plein de dons. Un jour, il décida de partir en Inde et demanda à chacun quel cadeau il désirait qu'on lui rapporte du voyage. Quand il posa cette question au perroquet, celui-ci répondit : En Inde, il y a beaucoup de perroquets. Va les voir pour moi. décris-leur ma situation, cette cage. Dis-leur, mon perroquet pense à vous, plein de nostalgie. Il vous salue. Est-il juste qu'il soit prisonnier alors que vous volez dans le jardin de Rose? Il vous demande de penser à lui quand vous voltez joyeux entre les fleurs. En arrivant en Inde, le commerçant se rendit en un lieu où il y avait des perroquets. Mais comme il leur transmettait les salutations de son propre perroquet, l'un des oiseaux tomba à terre sans vie. Le commerçant en fut très étonné et se dit « Cela est bien étrange, j'ai causé la mort d'un perroquet. Je n'aurais pas dû transmettre ce message. » Puis, quand il eut fini ses achats, il rentra chez lui, le cœur plein de joie. Il distribua les cadeaux promis à ses serviteurs et à ses proches. Le perroquet lui demanda « Raconte-moi ce que tu as vu, afin que je sois joyeux moi aussi. » À ces mots, le commerçant se mit à se lamenter et à exprimer ses regrets. « Dis-moi ce qui s'est passé, » insista l'oiseau. « D'où te vient ce chagrin ?» Le commerçant répondit. « Lorsque j'ai transmis tes paroles à tes amis, l'un d'eux est tombé à terre sans vie. C'est pour cela que je suis triste. » À cet instant, le perroquet du commerçant tomba lui aussi dans sa cage inanimée. Le commerçant, plein de tristesse, s'écria « Oh mon perroquet au langage suave! Oh mon ami, que s'est-il donc passé? Tu étais un oiseau tel que Salomon n'en avait jamais connu de semblable. J'ai perdu mon trésor. » Après avoir longtemps pleuré, le commerçant ouvrit la cage et jeta le perroquet par la fenêtre. Aussitôt, celui-ci s'envola et alla se percher sur une branche d'arbre. Le commerçant, encore plus étonné, lui dit « Explique-moi ce qui se passe !» Le perroquet répondit « Ce perroquet que tu as vu en Inde m'a expliqué le moyen de sortir de prison. Par son exemple, il m'a donné un conseil. Il a voulu me dire « Tu es en prison parce que tu parles. Fais donc le mort. Adieu, ô mon maître. Maintenant, je m'en vais. Toi aussi, un jour, tu rejoindras ta patrie. » Le commerçant lui dit « Que Dieu te salue. Toi aussi, tu m'as guidé. Cette aventure me suffit, car mon esprit et mon âme ont pris leur part de ces événements. » Trace. Un homme courait après un voleur. Juste au moment où il allait s'en emparer, il entendit quelqu'un crier « À l'aide, à moi, vite !» Pensant qu'il y avait un deuxième voleur dans les lieux, il fit donc demi-tour pour porter secours à qui avait crié. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Regarde ces traces !» fit l'autre. « Cours vite dans cette direction !»« Bougre d'imbécile, que me dites là ? » Bougre d'imbécile, que me dis-tu là ? J'avais trouvé le voleur, je le tenais presque. Si je l'ai laissé s'échapper, c'est uniquement à cause de ton appel. Moi, je te montre ces traces et ces traces suffisent à établir la vérité. Ou tu es idiot, ou tu es l'associé de ce... ou tu es hideux, ou tu es l'associé de ce voleur. Car tu l'as sauvé au moment où j'allais m'en emparer. Pauvre chacal. Un jour, un chacal tomba dans un pot de peinture. Quand il se vit avec son pelage couvert de peinture de toutes les couleurs, il se dit « Je suis un paon, un élu parmi les animaux. » Et prenant une démarche pleine de prétention, il s'en rut rejoindre les autres chacals. Ceux-ci lui dirent « Oh pauvre chacal, d'où te viennent cette prétention et ces manières ? Es-tu devenu fou ? Ou bien fais-tu le pitre ? Ceux qui mentent et montent en chair pour se faire admirer du peuple voient un jour leur fierté devenir un objet de honte. Ils n'espèrent que les flatteries du peuple, mais leur intérieur est aussi trompeur que leur apparence.